Vous écoutez, on lit pour vous.
Être enfin compté. Une chronique d'Yves Lafontaine, parue le 20 mai 2026 dans le magazine Fugue. Pendant longtemps, les personnes LGBTQ+ ont existé dans les marges des statistiques officielles. Invisibles dans les formulaires, absentes des grandes études démographiques, souvent réduites à des estimations approximatives ou à des recherches communautaires menées avec peu de moyens, mais énormément de détermination. Voilà pourquoi l'annonce de Statistique Canada, qui inclut pour la première fois une question sur l'orientation sexuelle dans le recensement de 2026, mérite d'être saluée. Ce geste peut sembler technique, bureaucratique même. Pourtant, il porte une immense charge symbolique et politique, celle de reconnaître officiellement que nous faisons partie du portrait du pays. Être compté, c'est exister autrement qu'à travers des clichés, des débats ou des controverses. C'est apparaître dans les données qui servent à construire les politiques publiques, les services, les budgets, les programmes de santé, les stratégies en logement, en emploi ou en lutte contre la pauvreté. C'est aussi reconnaître que les réalités LGBTQ+ ne sont pas anecdotiques ni marginales, mais pleinement canadiennes. Pendant des décennies, les communautés queer ont dû expliquer, démontrer et parfois même prouver leur réalité sans disposer d'outils statistiques solides. Pourtant, les organismes communautaires et les chercheurs répètent depuis longtemps les mêmes constats. Les personnes LGBTQ+, et particulièrement les personnes trans, non-binaires et bispirituelles, vivent davantage d'isolement, de précarité économique, de discrimination et de problèmes de santé mentale. Mais comment convaincre les décideurs lorsque les chiffres officiels n'existent pas? Cette nouvelle question du recensement arrive après des années de revendications portées par des chercheurs, des militants, militantes et des organismes communautaires. Elle représente donc une victoire discrète, mais importante. Une victoire de la patience et de la persévérance. Cela dit, cette avancée soulève aussi plusieurs questions. Qui se sentira suffisamment en sécurité pour répondre honnêtement? Combien de jeunes vivant dans des familles peu ouvertes choisiront de taire leur orientation? Combien de personnes garderont encore une méfiance envers les institutions gouvernementales après des décennies de stigmatisation, de médicalisation ou de discrimination? On ne peut pas ignorer cette réalité. Pour plusieurs personnes LGBTQ+, particulièrement les aînés, les personnes racisées, autochtones ou vivant en région, l'idée même de divulguer son orientation sexuelle à l'État peut encore provoquer un malaise bien réel. Il faudra probablement aussi quelques autres recensements avant qu'un plus grand nombre de personnes se sentent totalement à l'aise de dévoiler ouvertement leur orientation sexuelle dans ce type de démarche officielle. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit lentement, génération après génération, à mesure que les communautés sentent que leurs réalités sont reconnues, respectées et protégées. Et pourtant, malgré ces craintes légitimes, il demeure essentiel d'avancer, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on refuse de voir. Parce qu'une société plus inclusive passe aussi par une meilleure compréhension des réalités vécues par ses citoyens et citoyennes. Parce qu'en l'absence de données, les besoins des communautés LGBTQ+ risquent trop souvent d'être relégués au second plan. Concrètement, ces données pourraient permettre de mieux documenter les enjeux de santé mentale chez les jeunes LGBTQ+, qui présentent des taux plus élevés d'anxiété, de dépression ou d'idéation suicidaire. Elle pourrait aussi aider à mieux financer des ressources d'hébergement pour les jeunes queer en situation d'itinérance, une réalité encore largement sous-estimée au Canada. Dans le domaine de la santé, des données plus précises pourraient également contribuer à améliorer l'accès aux soins adaptés pour les personnes trans et non-binaires, particulièrement en région. On pourrait aussi mieux mesurer les écarts de revenus, les réalités de discrimination au travail ou les besoins spécifiques des aînés LGBTQ+, souvent invisibles dans les politiques liées au vieillissement. Des municipalités et des gouvernements pourraient enfin s'appuyer sur ces données pour créer des programmes ciblés, soutenir davantage les organismes communautaires ou développer des initiatives mieux adaptées aux réalités locales. Lorsqu'un besoin est documenté, il devient beaucoup plus difficile de prétendre qu'il n'existe pas. Le recensement ne réglera évidemment pas tout. Un formulaire ne fera pas disparaître l'homophobie, la transphobie ou les inégalités sociales. Mais il peut contribuer à documenter ces réalités et, espérons-le, à mieux y répondre. Il faudra aussi que ces données soient utilisées avec respect, prudence et intelligence. Les communautés LGBTQ+, devront être impliquées dans leur interprétation et dans les décisions qui en découleront. Être compté ne doit jamais devenir une simple opération statistique déconnectée des personnes concernées. Cette initiative pose enfin une question plus profonde. Qu'est-ce qu'une société choisit de mesurer? Car ce qu'on décide de compter révèle aussi ce qu'on considère important. Pendant trop longtemps, les réalités LGBTQ+, ont été perçues comme secondaires, invisibles ou trop complexes pour entrer dans les cases officielles. Aujourd'hui, le Canada reconnaît enfin que nos vies, nos parcours et nos réalités méritent elles aussi d'être documentées. Et cela, en soi, constitue déjà une forme de reconnaissance. Une reconnaissance imparfaite, certes, mais profondément humaine. C'était « Être enfin compté », une chronique d'Yves Lafontaine, parue le 20 mai 2026 dans le magazine Fugue.
La mortalité augmente chez les milléniaux, sauf au Québec. Un texte de Francis Vaille, paru le 2 mai 2026 dans la presse. Je m'apprêtais à écrire une chronique malheureuse sur la surmortalité chez nos jeunes adultes. À expliquer qu'après des décennies de baisse, le taux de mortalité est reparti à la hausse chez les 25-44 ans, tant au Canada qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en particulier chez les hommes. Que l'amélioration des régimes alimentaires et de la condition physique des hommes a certes contribué à la baisse du taux de mortalité dans le passé, mais que d'autres facteurs viennent maintenant le rehausser chez les milléniaux. Ce revirement historique mis en lumière par le Club Vita, est bien réel et troublant. Il a débuté vers 2010, soit bien avant la pandémie, selon une analyse des trois pays faite par le Club Vita, un groupe formé d'actuaires qui est suivi par les grands régimes de retraite, notamment. Or, après vérification, j'ai fait une découverte renversante. Cette hausse de la mortalité chez les hommes de 25 à 44 ans est bien réelle partout au Canada, sauf au Québec. Le Québec fait nettement bande à part, selon les données de Statistique Canada. Depuis 15 ans, la mortalité a ainsi continué à reculer ici, chez les hommes québécois de 25 à 44 ans, pendant qu'elle augmentait dans toutes les autres provinces, exception faite, pour certaines tranches d'âge, de l'île du Prince-Édouard. Par exemple, chez les hommes de 35 à 39 ans, le taux de mortalité au Canada est passé de 1,1 décès pour 1000 personnes en 2009 à 1,5 en 2024. Le bond est majeur, 36 % depuis 15 ans. Le taux canadien pour ce groupe d'âge remonte ainsi progressivement vers celui qui avait cours il y a 30 ans, 1,7 décès pour 1000 personnes. Pendant ce temps, le taux du Québec a sans cesse reculé durant la même période pour atteindre 0,9 décès pour 1000 personnes en 2024, le plus bas au Canada. Le constat est semblable dans toutes les tranches d'âge de 5 ans jusqu'à 44 ans. Et chaque fois, la situation a empiré au Canada depuis 15 ans, alors qu'elle s'est améliorée au Québec. C'est la Saskatchewan qui connaît la pire situation. Par exemple, le taux de mortalité des hommes de 30 à 34 ans y a doublé depuis 15 ans, atteignant 2,5 décès pour 1000 personnes en 2024. Au Québec, le taux est trois fois moins élevé, à 0,7. Le phénomène est semblable chez les femmes, bien qu'il soit moins prononcé dans leur cas. La grande question, pourquoi le taux de mortalité a-t-il augmenté ailleurs depuis 15 ans, mais pas au Québec? Réponse des experts du Club Vita à la presse. Plusieurs facteurs peuvent influencer ces résultats, notamment les décès liés aux opioïdes et autres stimulants. Selon les données de l'Agence de la santé publique du Canada, le nombre de décès liés à une intoxication aux opioïdes au Québec est nettement inférieur à ceux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario. Outre les surdoses et le suicide, la majeure partie de la surmortalité au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis est attribuable aux homicides, aux accidents de la route et à l'intoxication alcoolique, notamment. L'augmentation des soi-disant « décès du désespoir », surdose, suicide, etc., chez les personnes en âge de travailler, pourrait entraîner des défis persistants en matière de santé mentale au sein de cette génération qui se prolongerait jusqu'à la retraite. Ces décès pourraient aussi être le signe d'une société devenue plus difficile à appréhender, se traduisant en une pression constante au sein de ces groupes de travailleurs, explique le Club Vita dans son analyse. Cette surmortalité, en plus de ses effets sociaux dramatiques, a des impacts économiques non négligeables. Des taux de mortalité qui augmentent chez les travailleurs dans la force de l'âge se traduisent, entre autres, par une perte de main-d'œuvre compétente et une baisse des cotisations au régime public de retraite, comme le régime de pension du Canada. Mais une question demeure. Pourquoi la mortalité au Québec chez les hommes est-elle passée d'un taux plus élevé que la moyenne canadienne il y a 30 ans, au taux le plus bas des provinces aujourd'hui? Ce constat est présent dans toutes les tranches d'âge entre 20 et 59 ans, tant chez les hommes que chez les femmes. Moins de suicides qu'avant au Québec. Monique Blackburn, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, n'est pas surprise par ce constat. La première cause de décès chez les jeunes hommes, rappelle-t-elle, ce sont les traumatismes, d'abord les accidents de la route, puis les suicides. Or, ces décès par traumatisme ont beaucoup diminué depuis un quart de siècle. Le Québec ne se démarquait pas favorablement dans les taux de suicide des hommes. On a corrigé notre vulnérabilité à cet égard, dit-elle. D'ailleurs, les autopsies au Québec, habituellement pratiquées lorsqu'un décès est suspect, violent, inattendu ou lié à une négligence, homicide, suicide, accident, etc., sont en forte baisse, bien plus qu'ailleurs au Canada. En 2024, le Québec avait d'ailleurs le plus faible taux d'autopsie des provinces. Certes, d'autres raisons, comme des décisions budgétaires, pourraient expliquer le recul des autopsies, mais la tendance est très nette. Monique Blackburn confirme que les décès par surdose sont en hausse, mais qu'ils sont moins fréquents qu'ailleurs au Canada. autre cause en baisse chez les 25-50 ans, quoique moindre, le cancer du poumon. Plusieurs raisons peuvent expliquer l'amélioration au Québec. Il y a bien sûr les raisons techniques. Par exemple, la diminution de l'accès aux armes à feu et les restrictions concernant l'alcool au volant, comme les barrages routiers, les fortes amendes pour conduite avec les facultés affaiblies et le risque de casier judiciaire. Sont aussi en cause les campagnes de sensibilisation concernant notamment l'alcool au volant et la cigarette. D'autres raisons, plus profondes, pourraient expliquer l'écart. Le fait de développer chez les jeunes, depuis la garderie, des habiletés sociales et de l'estime de soi a pu modifier des parcours de vie et contribuer à réduire la mortalité par traumatisme, souligne Monique Blackburn. Autre effet de l'éducation depuis la jeune enfance, la dénormalisation de certains comportements chez les garçons, violents ou autres, et une meilleure communication de leurs émotions. Chez les garçons, il est possible que le changement des normes sociales ait joué un rôle, comme le fait de ne pas garder toutes ses émotions à l'intérieur, dit-elle. Monique Blackburn mentionne aussi, comme facteur, la déstigmatisation de la demande d'aide chez les jeunes hommes. Malgré ces bonnes nouvelles, qui expliquent peut-être la proportion plus grande de Québécois qui se disent plus heureux qu'ailleurs, sondage après sondage, l'anxiété demeure grande chez les jeunes. Le taux de visite à l'urgence pour tentative de suicide est plus grand qu'avant, mais les demandes d'aide et de soins aussi, ce qui peut contribuer à réduire les suicides, dit la médecin-conseil. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas s'attendre à voir le taux de mortalité du Québec continuer de descendre, selon les actuaires du régime de rente du Québec, RRQ. La longévité des plus jeunes s'est déjà beaucoup accrue au cours des dernières décennies. Leurs quotients de mortalité ont maintenant atteint un niveau très bas, qui peut difficilement continuer à progresser au même rythme que par le passé. Autrement dit, les gains d'espérance de vie les plus faciles à réaliser ont déjà été faits à ces âges. Est-il écrit dans la plus récente évaluation actuarielle du RRQ, parue en novembre 2025. En somme, se peut-il que le modèle québécois, si souvent critiqué, ait contribué à réduire la mortalité chez nous plus qu'ailleurs au Canada, notamment chez les milléniaux? Les chiffres semblent le démontrer. C'était « La mortalité augmente chez les milléniaux, sauf au Québec ». Un texte de Francis Vaille, paru le 2 mai 2026 dans La Presse.
Fabien Wagner, de la moelle épinière au réseau de la mémoire. Un texte publié le 30 avril 2026 sur Google News, FR. Fabien Wagner, chargé de recherche CNRS à l'Institut des maladies neurodégénératives, IMN, au sein de Bordeaux Neurocampus, département de recherche de l'Université de Bordeaux, membre de l'Institut hospitalo-universitaire VBHI, Vascular Brain Health Institute, travaille sur la stimulation du système nerveux pour restaurer des fonctions altérées, du mouvement aux fonctions cognitives. Il a été récompensé par la médaille de bronze du CNRS. La première fois que Fabien Wagner s'intéressa à la mémoire, c'est par analogie. Il venait de passer 5 ans en Suisse à concevoir des neuroprothèses pour restaurer la locomotion chez des patients paralysés. Ces dispositifs implantables étaient capables de lire et de stimuler la moelle épinière en temps réel. Une fonction motrice perdue pouvait alors être ainsi partiellement restituée par la machine. Il se demanda alors, et si les mêmes techniques pouvaient agir sur des fonctions plus complexes, comme la mémoire? En rejoignant le CNRS en 2022, il se lance dans ce nouveau programme, notamment financé par une ERC Starting Grant, projet Memo Prosthetics. L'idée est d'étudier si la stimulation électrique de l'hippocampe, région clé de la mémoire, fortement impliquée dans la maladie d'Alzheimer, pourrait moduler les capacités mnésiques. Mais l'analogie entre ces neuroprothèses pour restaurer la locomotion chez des patients paralysés montre rapidement ses limites. Nous avons observé que la stimulation peut dégrader la mémoire, pas l'améliorer, note-t-il. Un résultat qui contredit plusieurs études précédentes et remet en question l'idée d'un simple déréglage des oscillations cérébrales. Ce constat marque un tournant dans ses travaux. Plutôt que de chercher à améliorer directement la mémoire, son équipe s'attache désormais à comprendre ce que la stimulation fait réellement aux réseaux neuronaux. Quels signaux modifie-t-elle? À quelles échelles agit-elle? Pourquoi ces effets diffèrent-ils selon les fonctions ciblées? Pour y répondre, les chercheurs croisent enregistrements électrophysiologiques, imagerie IRM et modélisation informatique. Ces questions sont explorées chez le primate et chez des patients atteints de la maladie des petits vaisseaux cérébraux. En parallèle, Fabien Wagner poursuit toujours ses travaux sur la motricité. Il développe aujourd'hui des approches de stimulation non-invasive pour restaurer les mouvements du membre supérieur chez des patients tétraplégiques ou post-AVC. Deux terrains, un même fil directeur. Partir d'une preuve de concept chez l'animal pour aller, pas à pas, vers des applications cliniques. C'était Fabien Wagner, de la moelle épinière au réseau de la mémoire. Un texte publié le 30 avril 2026 sur Google News.
La voix qu'on écoute encore. Un texte d'Hélène David, paru le 14 mai 2026 dans la presse. Qu'on se nomme Louise Arbour, Céline Galipeau, Anne-Marie Dussault ou Michel Courchêne, on partage un pouvoir important, celui de la voix. Ces femmes qui pourraient très bien profiter d'une retraite tranquille ont toutes les quatre, comme bien d'autres, décidé de demeurer engagées. Chacune occupe encore un rôle de premier plan, que ce soit celui de futur gouverneur général, de journaliste ou d'analyste politique. Toutes des femmes au parcours impressionnant qu'elles ont tracé de manière exemplaire. Pourquoi souhaitent-elles continuer à être présentes dans l'espace public? Je propose une réponse simple, parce qu'elles ont encore des choses à dire et qu'elles souhaitent en faire profiter la société dans les fonctions qu'elles exercent aujourd'hui. La crédibilité et l'exemplarité de Louise Arbour ne sont plus à démontrer avec toutes les fonctions qu'elle a occupées. Céline Galipeau, 20 ans à la barre du téléjournal, en plus de ses nombreuses années de journaliste, ce n'est pas rien. Anne-Marie Dussault, elle, a troqué sa toge d'avocate pour faire carrière dans le journalisme et tenir la barre d'une importante émission d'information qui a toujours gardé sa pertinence. Michel Courchêne a eu une vaste carrière politique en assumant les responsabilités de plusieurs ministères de premier plan et est devenu une analyste aguerrie de la vie politique actuelle. Nous avons encore besoin de ces femmes pour nous éclairer sur les grands enjeux de notre société. L'espérance de vie dans les pays industrialisés a explosé depuis quelques décennies et il est très lointain le temps où la « Liberté 55 » était à la mode. Louise Arbour m'avait dit, lors d'un entretien pour une de mes premières chroniques, « Passé un certain âge, on ne devrait plus exercer de pouvoir, mais plutôt avoir de l'influence. » C'est exactement ce qu'elle pourra faire dans son nouveau rôle de gouverneur général, mettre à profit son expérience pour influencer. Elle l'a d'ailleurs clairement exprimé lors de sa nomination. On devient facilement accro à l'adrénaline qui vient avec ce genre de travail. Aujourd'hui, je suis non seulement très sereine, mais très enthousiasmée à l'idée de pouvoir servir le Canada dans cette nouvelle fonction. Ces femmes de grand talent ne veulent pas se taire et c'est une excellente nouvelle pour notre génération. Il y a de nombreuses personnes qu'on qualifie respectueusement d'expérimentées qui ont encore beaucoup de causes à défendre, d'opinions à exprimer ou de places à occuper dans l'espace public. Pourquoi y aurait-il une date de péremption à décréter? Qui pourrait nous reprocher de mettre à profit ces décennies de travail et d'expérience pour contribuer à notre devenir collectif? Nous avons, depuis des millénaires, incarné des rôles liés à notre capacité de mettre au monde des enfants, d'en prendre soin et de les mener à l'âge adulte. Ainsi s'est transmise, de mère en fille, l'injonction sociale de laisser les choses de la cité être menées par les hommes. Tout cela a bien évolué, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons vu arriver une telle vague de travailleurs et de travailleuses en âge de prendre leur retraite, mais qui se sentent encore tout à fait aptes et motivées à poursuivre leurs différents engagements. Les femmes des dernières générations ont considérablement fait évoluer la société en s'investissant, en plus de la maternité, dans des fonctions importantes et visibles. Elles ont massivement investi les universités, se sont intégrées dans des postes jusqu'à récemment réservés surtout aux hommes et sont devenues incontournables partout, dans tous les domaines. Beaucoup d'entre elles qui pourraient maintenant ralentir ne veulent pas se taire. Elles désirent encore faire partager leur expertise et les fruits de leur longue carrière. L'âge qu'on a ne doit pas se mesurer à l'aune du silence. Vieillir, ce n'est surtout pas se retirer de la vie, et pas plus pour les femmes que pour les hommes. Depuis que j'ai quitté la vie politique, on me demande souvent si j'aime être à la retraite. Je ne sais jamais comment répondre, car cela supposerait que je sais ce que signifie être à la retraite. Se retirer de quoi, de qui et comment le faire? Se transformer, se réinventer, s'ajuster? Oui. Mais après avoir occupé des fonctions publiques, avec toutes les responsabilités que cela implique, je ne me vois pas disparaître soudainement et ne plus participer à ces conversations qui peuvent changer le cours des choses dans un monde en pleine transformation. On a encore bien besoin de tous ceux et celles qui veulent demeurer dans l'espace public comme Louise Arbour, Céline Galipeau, Anne-Marie Dussault et Michel Courchesne. Je me réjouis de faire partie d'une génération qui n'entend pas se condamner au silence avec les années qui passent. C'était « Les voix qu'on écoute encore », un texte d'Hélène David, paru le 14 mai 2026 dans La Presse.